Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La semaine dernière, nous avons vu qu'une des caractéristiques de Jean-Baptiste, c'était l'humilité. Il est simplement le messager du Christ. C'est lui qui annonce la présence du Christ. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et je vous disais aussi que l'attitude du Christ, son interprétation toute personnelle de la loi de Moïse, questionne le peuple et les disciples de Jean. Mais Jean-Baptiste était aussi une énigme pour les autorités religieuses de l'époque, les autorités qui connaissaient bien la Torah. Et il y avait dans son comportement des attitudes qui pouvaient leur faire penser qu'il serait le Messie tant attendu. D'abord, il y avait sa lignée. Il était le fils d'un grand prêtre. Il menait une vie austère. Alors que Jésus venait d'une famille simple et sa façon de se nourrir, de se vêtir, ne le distinguait pas des autres hommes. Les prêtres et les lévites viennent interroger Jean. Qui es-tu? Et il répond sans équivoque, moi, je ne suis pas le Christ. C'est-à-dire l'élu de Dieu, le Messie. Alors ils insistent, « Qui es-tu? Es-tu Élie ?» Et Jean répond, « Non. Es-tu le prophète ?» Même réponse, « Non. » Alors pourquoi Élie? Parce que Malachie avait annoncé la venue d'Élie comme préparation du grand jour messianique. « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, afin que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Et l'ange avait dit aussi à Zacharie, en lui annonçant qu'il aurait un fils, « Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. » Et Dieu, par la bouche de Moïse, dans Deutéronome, annonçait un prophète. « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, et je mettrai mes paroles dans sa bouche. » C'était sur ces paroles de l'Écriture que les prêtres s'appuyaient. Et les réponses de Jean-Baptiste, vous comprenez bien, ben, ça les laisse perplexes. Et ils reviennent à la charge. Que dis-tu sur toi-même? La réponse est énigmatique. Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur. Ce n'est pas moi qui suis important. Ne vous focalisez pas sur ma personne, mais sur le message que je vous donne. La mission de Jean-Baptiste, c'est de nous inviter à un travail sur nous-mêmes, pour nous préparer à devenir mère de Dieu, à l'accueillir en nous, à lui donner sa juste place en nous. Cette image du désert dans lequel crie la voix est l'image extérieure du désert intérieur qui nous habite souvent. C'est l'état de notre éloignement de Dieu, que nous sommes invités à transformer. Ces montagnes, ces collines, ces coteaux, ces défilés qu'il nous faut aplanir ou combler sont toutes ces choses qui occupent notre cœur, qui occupent nos pensées, notre intelligence, qui nous encombrent, qui nous empoisonnent la vie. Les angoisses, les peurs, les barrières, les murs que nous érigeons pour nous protéger, toutes ces choses que nous accumulons pour nous rassurer, tout cela nous empêche d'être dans l'accueil, dans l'ouverture. Et il n'y a plus de place pour Dieu. Et quand Jean-Baptiste ajoute « Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas », ce milieu de vous n'est pas un endroit géographique, vous le savez, mais c'est en nous, dans la partie la plus intime de notre cœur, là où se trouve la source de vie, la source de joie, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, cette semence divine qui est déposée en nous et que nous sommes invités à faire croître pour accomplir notre destinée divine. Alors comment préparer nos cœurs pour cette venue? Eh bien, la réponse se trouve dans l'épître de saint Paul que nous venons d'entendre, en 4 versets, qui nous donne 4 aspects importants de toute vie spirituelle. Alors le premier aspect, c'est la joie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Dans cette exhortation, il y a deux points importants. Toujours, réjouissez-vous, mais pas uniquement lorsque tout va bien, que la vie nous sourit, que les affaires marchent. Là, c'est facile. Mais c'est en toutes circonstances, comme dans cette crise sanitaire qui nous accompagne depuis maintenant 9 mois. Réjouissez-vous dans les bons moments, mais réjouissez-vous aussi dans les épreuves. Cela veut dire, ne conditionnons pas notre joie ou l'absence de joie, la tristesse, aux circonstances extérieures. Mais entrons dans notre profondeur pour aller nous connecter à la source de la joie, le Christ. Nous sommes parfois découragés, nous doutons du présent, de l'avenir, de notre place dans la société, de la présence de Dieu parmi nous-mêmes. Saint Paul nous invite à la confiance, à lâcher notre connu qui nourrit continuellement notre mental pour s'ouvrir à l'inconnu, notre véritable moi. Et ce travail de confiance, Saint Paul nous dit de le faire dans le Seigneur. Car cette source de la joie, de la vie, ce n'est pas dans l'abondance des biens matériels ou affectifs que nous allons la trouver, mais dans le Seigneur. Si nous pensons trouver la joie par nous-mêmes, avec nos propres forces, ou bien par les autres, nous serons vite déçus, car ce seront des petites joies éphémères. Mais si nous restons centrés sur la source de la joie, reliés à la joie inconditionnelle, la joie parfaite, le Christ, alors tout deviendra grâce. Le deuxième aspect, c'est la douceur. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Le Christ dans les Béatitudes nous dit « Bienheureux les doux, ils hériteront la terre ». La douceur, c'est une qualité de relation. C'est quand nous sommes capables d'une écoute de la présence en soi, que viendra l'écoute de l'autre. La douceur, c'est oser manifester l'être que nous sommes. C'est oser prendre sa place sans agresser la place de l'autre. Cela nous demande de la rigueur et du respect. Le doux n'entre pas dans la colère et la violence, mais le doux n'est pas un mou. Il reste dans son axe, malgré les sollicitations et les épreuves de la vie. C'est ainsi une attitude radicalement différente que nous sommes invités à tenir. Le royaume de Dieu ne viendra pas par la force et la violence, mais par la douceur. Cette qualité de relation est le signe de l'état d'une personne qui vit dans le Seigneur. Le troisième aspect, c'est la quiétude, la confiance en la force de Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Dieu ne se fatigue jamais de nous répondre lorsque nous lui exprimons nos désirs. C'est nous qui nous fatiguons les premiers de demander, ou bien qui doutons de la réponse, parce que nous ne sommes pas en relation avec lui. Nous débranchons régulièrement la prise et l'énergie divine n'arrive plus jusqu'à nous. Nous vivons dans l'inquiétude et comptons d'abord sur nous pour nous rassurer. Et ce n'est souvent qu'en dernière extrémité que nous prions Dieu, ou alors lorsqu'une catastrophe nous touche. Nous cherchons la réponse avec notre mental, avec notre intelligence, et nous oublions toute l'énergie potentielle divine qui nous habite et qui ne demande qu'à nous aider si nous la laissons agir. La prière est importante car elle nous remet en relation avec Dieu. Lorsque nous sommes coupés de lui, nous sommes sourds à sa réponse. Dans la prière, il y a deux aspects importants. Le premier, c'est d'exprimer notre besoin. Et le deuxième, d'exprimer notre gratitude. L'un ne va pas sans l'autre. Et enfin, le quatrième aspect dont nous parle saint Paul, c'est la paix. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce quatrième aspect découle des trois autres, la joie, la douceur, la quiétude avec la foi dans la puissance de la prière. La paix du Christ n'est pas une paix extérieure comme celle du monde, qui est plutôt un équilibre entre forces adverses. Mais c'est avant tout en nous-mêmes qu'elle doit d'abord se réaliser. L'homme qui est habité par la paix du Christ est semblable aux profondeurs de l'océan. Quelles que soient les tempêtes, les ouragans qui se manifestent à sa surface, dans les profondeurs règne la paix et la quiétude. Être habité de la paix du Christ n'est pas le résultat d'une longue réflexion intellectuelle, mais d'une attitude de confiance en la puissance d'amour de Dieu. C'est se sentir aimé au-delà de tous nos échecs, de toutes nos peurs, de tous nos oublis. Si ta conscience te condamne, Dieu est plus grand que ta conscience, écrit saint Jean. Alors prenons conscience dans ce temps de l'Avent de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Laissons-nous creuser chaque jour un peu plus par la grâce divine. Ouvrons nos cœurs à la prière et cultivons notre terre intérieure pour porter les fruits de l'esprit, la joie, la douceur, la quiétude et la paix. À lui soit honneur, gloire et louange au siècle des siècles. Amen.